Salut. Alors, je vais commencer par vous raconter une histoire d'éléphant parce que je veux détendre un peu l'atmosphère. Merci à Luc aussi parce qu'il ne se rend pas compte à quel point le Seigneur l'a conduit aussi par rapport à ce qu'il a dit ce matin. Oui, je vais vous raconter une histoire d'éléphant. Vous savez que c'est le petit moment écologique. Vous savez qu'en Afrique, les éléphants participent de la flore, puisqu'il y a des graines qui ne peuvent en fait pousser que si l'éléphant les a digérées. Et donc, on pense que si l'éléphant disparaissait, il y aurait beaucoup de plantes qui disparaîtraient. Alors, vous allez me dire, mais quel est le rapport avec ce que tu veux dire ce matin? Ben, je dirais que pour nous, et ça, pour moi, ce qui est très important, c'est que la parole soit transmise, qu'il y ait des gens qui disent, qui expliquent ce que dit la parole. Et pour moi, j'ai toujours cherché des images pour montrer qu'en fait, et je ne sais pas si vous connaissez tous la parabole du semeur. Et à un moment donné, dans la parabole du semeur, en fait, on voit qu'il faut s'approprier ce que la parole de Dieu nous dit. Et finalement, dans cette histoire d'éléphant, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas croire que la parole, comme ça, bon, ben, on l'entend et puis, vous savez ce qui arrive, hein. Au bout de 2 jours, on l'a oublié. Et moi, il m'est tombé au mois de janvier un texte, mais je veux dire un texte qui n'était pas du texte pour la journée, comme de la manne, mais c'était un texte pour. Où je me disais, mais il y a quelque chose là-dedans qu'il faut que je me l'approprie. Et finalement, il a fallu plus de 2 mois pour que je me rende compte que toutes ces graines, tout ce qu'il y avait là-dedans, ce que je méprisais, c'était des textes où je disais, mais bon, finalement, ces textes, ils ne sont pas très importants, ce n'est pas l'évangile, je ne vois pas le rapport avec l'évangile. Et puis finalement, les ouvertures qu'il y a eu depuis 2 mois, le travail que j'ai fait sur ce texte et tout ce que ça ouvre sur le Nouveau Testament, je me suis dit, mais Seigneur, tu es incroyable. Et finalement, il y a beaucoup de choses dans la parole qui sont comme ces graines en Afrique qui ne pourraient en fait pousser que si on les a digérées, si un animal les a digérées. Et donc ce texte, je vais vous parler aujourd'hui d'Esther. Alors certains ont déjà entendu parler de Mardochée, de l'histoire d'Esther. Mais est-ce que vraiment il y a un rapport avec le Nouveau Testament, avec Jésus? Et là, j'ai découvert des choses extraordinaires. Alors j'intitulerai, si vous voulez, pour donner un titre à ce temps maintenant où on parle de ce texte. Premier titre, temps de prière ou vie de prière? Deuxième titre, la grâce de céder. Et puis, troisième titre, c'est de vous dire que Esther et le Nouveau Testament, il y a beaucoup, beaucoup de rapports, et qu'il y a même un résumé du livre d'Esther dans le Nouveau Testament. Si vous prenez Romains, chapitre 8, et que vous relisez chez vous tout le chapitre 8, on pourrait dire que de 1 à 30, peut-être pas jusqu'à plus que 30, mais juste du 1 à 30, il s'agit de la souveraineté, plutôt de la toute suffisance de la grâce de Dieu capable de dominer toutes les situations. Voilà le thème de Romains 8, 1 à 30. Et ça mériterait déjà qu'on passe 1 heure là-dessus. Mais bon, ce n'est pas le sujet du jour. Donc, on peut déjà faire une liaison entre Esther, Romains 8, mais également avec un autre texte qui a une particularité avec Esther, c'est que vous savez qu'il y a deux livres dans la parole, dans la Bible, où on ne parle, on n'a jamais le mot Dieu. Il y a Esther et il y a le Cantique des Cantiques. Donc dans le Cantique des Cantiques, bon, c'est quelque chose qui n'est pas tellement abordable pour le commun des mortels, parce que c'est une histoire où on se dit comment la décrypter. Ben, vous allez voir, on va en parler aussi, parce qu'il y a un rapport entre ces deux. Donc pour revenir à Esther, je vais vous résumer rapidement ce qui s'est passé, mais finalement, on va s'attacher à Esther 4, qui est la clé de ce livre, le centre, on peut dire, où se passe vraiment l'essentiel. Donc prenons le livre d'Esther. Et qu'est-ce qu'on y voit? Donc si on veut planter un peu le décor, quand est-ce que ça se passe et où ça se passe? Je dirais que le contexte. Je vous l'ai dit, il n'y a pas le nom de Dieu. Et c'est pour les Juifs aujourd'hui, et j'ai regardé sur pas mal de textes juifs, la raison de cette omission est incompréhensible, à tel point qu'on a même réécrit le livre d'Esther au moment des... Vous savez, quand on a écrit la Bible en grec, on l'a... la plupart des textes aujourd'hui qu'on a viennent de cette Bible qu'on appelle des Septante. C'est-à-dire qu'elle a été traduite à Alexandrie, complètement en grec, à partir des textes hébreux, et aujourd'hui, on a pratiquement comme textes originaux, à part les textes d'Umran, on a ceux-là. Et donc, à ce moment-là, on a traduit Esther, qu'on appelle dans la Tob Esther grecque. Vous ne l'avez pas dans la Bible, je dirais, entre guillemets, protestante, un autre texte d'Esther, mais où Dieu est cité, parce qu'il ne pouvait pas imaginer que ça ne soit pas cité. Alors, les circonstances, où se trouvaient les Juifs au moment de cette histoire? Alors, ces événements, en fait, si on les regarde dans les livres historiques, ils s'intercalent entre le 6e et le 7e chapitre d'Esdras, mais ils ne sont pas inclus là parce qu'ils ont eu des difficultés pour rentrer même dans les livres saints. Parce qu'ils concernent qui? Ils concernent ceux qui n'étaient pas rentrés sur les terres, ce qu'on raconte dans Esdras et dans Néhémie, en fait, c'est 42 000 qui sont rentrés sur la terre promise. Il n'y avait plus le temple, hein, je vous le rappelle, il était détruit. Les murailles de Jérusalem étaient détruites. Et ceux-là, ils ont dit, bon non, on n'a pas envie de rentrer, on est bien là où on est, et finalement, on est oublié de Dieu. Et il y a même plusieurs psaumes qui parlent de ces gens-là, de ces juifs qui n'étaient pas oubliés de Dieu, mais qui pensaient qu'ils étaient oubliés de Dieu. Puisque vous prenez le psaume 42, plusieurs fois, vous voyez « Où est ton Dieu ?» Et vous avez toute une série de psaumes aussi. Donc vous voyez, c'est aussi un sujet qui s'ouvre sur les psaumes. Et on pourrait rien qu'à partir des psaumes voir cette providence. C'est-à-dire Dieu n'oublie pas son peuple. Il n'oublie pas son peuple. Donc imaginons des centaines de milliers de gens qui sont dispersés dans un peuple autour de Suse. Suse, c'est aujourd'hui dans le sud de l'Irak. Et où finalement ils sont fréquemment obligés de désobéir à la parole. À la parole, c'est-à-dire en fait à ce qu'ils connaissent de leur loi. Et si on regarde maintenant l'histoire de plus près, on voit que Esther, c'était une très belle femme, orpheline, qui faisait partie de ce peuple dispersé. Elle est choisie par le roi du pays pour être son épouse. Elle se retrouve un jour dans le palais du roi. Et c'est un nouvel endroit pour elle, parce qu'à l'époque, les rois prenaient plusieurs épouses, et sans rentrer dans le détail, je dirais que son épouse précédente avait été répudiée parce qu'elle s'était montrée insolente, parce qu'elle s'était montrée, disons, pas obéissante, on va dire. Et Esther, elle représente en fait un type de chaque croyant, un type, une personne normale, une personne, on va dire, banale. Elle n'a pas été choisie parce qu'elle était... extraordinaire. Bien sûr, elle a été choisie parce qu'elle était une belle femme. Le roi, lui, c'est un type de roi qui a déposé son amour. Il est aussi une figure. Il l'a pris là où elle était. Il l'amène d'une famille dans sa propre famille. Ensuite, à cette époque, la parole nous parle d'un homme qui s'appelait Aman. L'Agagite. Et son nom, Aman, voulait dire « celui qui est en feu ». Esther certainement ne comprend pas pourquoi on a donné un tel homme une telle permission, un tel pouvoir sur toute la nation. C'était à l'époque un royaume qui était très étendu. Et Mardoché, qui était l'oncle d'Esther, lui avait dit au moment où elle allait se présenter devant le roi pour le choix, surtout ne dis pas de quelle origine tu es. Donc aujourd'hui, on voit Esther installée, cachée dans le palais, choisie comme épouse, pas seule. Il avait une sorte de harem. C'était un roi tout puissant. Et d'ailleurs, pour voir le roi, pour s'approcher de lui, en dehors d'une convocation, il tendait un sceptre, et s'il tendait ce sceptre, ça voulait dire qu'on était accepté, sinon on méritait la mort. Donc c'était des temps très particuliers qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui. Donc ce Haman reçoit tous les pouvoirs du roi, et personne ne savait ses origines, de quel pays elle provenait, rien. Et moi, j'ai pensé aussi, depuis le temps que je travaille ce texte, ça nous fait penser à notre pays où, finalement, il y a un pouvoir des ténèbres qui semble régner dans les milieux les plus divers, dans le milieu médiatique, au gouvernement, dans les écoles. Il y a un pouvoir, finalement, qui est laissé aux ténèbres. Là où on travaille, dans les magasins, on peut voir tous les jours que le mensonge est mis comme quelque chose de normal, comme quelque chose qui fait même partie des affaires. Moi, je le sais, je travaille dans les affaires. C'est normal. Et il semble aussi que les chrétiens soient cachés, qu'ils soient finalement, que leur témoignage ne soit pas entendu au niveau des médias, au niveau de notre pays. Donc, dans ce temps-là, Aman peut régner sans aucune opposition. Alors pourquoi, je l'ai dit tout à l'heure, le contexte, c'était ces gens-là étaient restés dans ce pays, mais c'était pas leur pays. Ils étaient nombreux, il y avait d'autres, des peuplades, il y avait d'autres tribus, il y avait d'autres, c'était un pays très très composite. Et Aman commence par, disons, de toute façon, par intimider. Satan veut aussi nous intimider, nous demander d'être dans le silence, de ne pas témoigner. Alors dans l'entourage de Esther, je rappelle qu'il y avait donc ce Mardoché, qui était son oncle, et qui lui décide un jour de ne pas se courber devant Aman, et c'est un seul homme qui ne se courbe pas devant lui, ça le rend tellement furieux qu'il décide de punir, mais pas de punir que Mardoché, mais pour punir Mardoché, c'est de punir tout son peuple, tous ceux qui sont derrière lui. Il savait qu'il était juif. Alors, c'est une minorité quand même. C'est une minorité et c'est une minorité qui n'a pas de puissance. C'est une minorité qui est dispersée, qui est habituée à se fondre dans la population, comme je l'ai dit. Et lui, comme il voit que ce seul homme ne se plie pas devant lui, il décide de jeter, je dirais, de jeter les sorts pour dire qu'est-ce qu'on va faire pour punir ce peuple. Le mot qu'on utilise à ce moment-là, c'est le pour. C'est-à-dire qu'il jetait un sort, c'était. En fait, on utilise le mot pour. C'est pour ça que vous avez dans la tradition juive, le pourim, c'est une fête, la seule fête d'ailleurs qui n'a pas pour origine Moïse. Et ça aussi, ça va replacer Esther, qui était dans ce peuple finalement oublié, qui était là dans un reste qui n'était même pas un reste, puisque c'était, ils n'avaient pas de quoi se vanter. Ils étaient finalement un peu des lâches qui étaient restés là où ils avaient été dispersés. Et donc, il est tellement furieux qu'il ne veut pas seulement aller contre cet homme, mais contre la nation tout entière. Et c'est pareil, Satan, ici, dans notre pays, veut aussi détruire notre témoignage. Il veut détruire ce qu'on fait. Il veut détruire ce que, si quelqu'un veut essayer de donner son témoignage au niveau des médias, c'est clair qu'il y aura, de l'opposition. Donc Mardoché, lui, il fait face à un ennemi qu'il ne haïssait pas seulement lui, mais qui haïssait aussi tout son peuple. Et Mardoché continue de ne pas s'agenouiller devant Aman. Il avait finalement cette onction de se tenir debout alors que les autres se prosternaient. Il avait reçu quelque chose de la part de Dieu, quelque chose qui lui permettait de se tenir debout. Et l'ennemi, je pense, avait décelé qu'il y avait un vrai défi dans cet homme. Mais, et c'est là qu'on arrive dans l'étrangeté d'Esther, et je vous dis, c'est vraiment une étrangeté. Mardoché, lui, ne fera pas face avec son ennemi. D'accord, on sait que c'est un homme de prière, et je crois que vous avez déjà eu des enseignements sur Mardoché. Il a l'onction, c'est-à-dire qu'il entend des choses de la part de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se rend aux portes du palais afin de pouvoir parler à Esther, là où elle demeure. Alors, elle était cachée dans le palais et il ne pouvait pas lui parler directement. Il fallait qu'il parle à un intermédiaire qui allait apporter à Esther tout ce qui concerne ses préoccupations. Alors il vient pas comme ça, il vient évidemment comme on faisait à l'époque quand on voulait, je dirais, être dans le deuil, montrer. Il vient avec la cendre et le sac, c'est-à-dire qu'il s'habille avec des vêtements très fruste ou déchirée, et puis il met de la cendre sur sa tête. Donc il se rend aux portes du palais et il demande au chambellan de transmettre le message, un premier message à Esther. Et on va rester sur ce chapitre 4 d'Esther qui finalement est le tournant, et pas seulement un tournant pour Esther, mais aussi qui doit être la chose qu'on doit vraiment s'approprier. Parce que Esther n'a pas été mise dans la parole pour juste faire beau, pour dire voilà, il faut qu'on complète l'histoire, que tout le monde soit cité, et puis on l'oublie. Sinon, ben, on ne l'aurait pas mis. Il y a d'ailleurs, si vous regardez dans d'autres versions, il y a plusieurs livres qui n'ont pas été retenus. Il y a d'ailleurs d'autres livres dont d'ailleurs certains médias veulent faire la publicité, des livres qu'on appelle apocryphes, qui sont en fait je dirais des commentaires ou des livres qui ne sont pas retenus comme étant inspirés ou devant apporter aux croyants quelque chose. Donc qu'est-ce qu'on peut retirer de ce chapitre 4? D'abord, on voit que Esther est remplie d'inquiétude. Et je vais un peu, vous donner ce que j'ai ressenti par rapport à ces... Finalement, c'est un chapitre assez court. Finalement, elle dit quoi? Elle dit « Je t'en prie, Mardoché, n'amène pas à mes portes tous ces soucis, tous ces problèmes. C'est toi qui as l'onction. Tu es assez fort face à l'ennemi. Moi, je suis caché et ce que tu es en train de faire, ça me fait peur. Et puis, tu attires l'attention sur moi, à mes portes. Cela n'a rien à faire avec moi. Toi, tu as assez de hardiesse pour faire face à l'ennemi. » C'est un peu comme ces croyants qui sont assis sur les sièges de l'Église, surtout pas de ressemblance avec nous, et qui disent ou pensent dans leur cœur, « Pasteur, ancien, c'est vous qui avez la hardiesse. Leader, c'est vous qui avez la puissance et l'onction pour parler à notre société. C'est vous qui avez été appelé de Dieu. » C'est vous qui avez la compréhension, la connaissance.